C'est un monde d'hommes, la musique. Et donc, on a l'impression, directement, quand on est plongé là-dedans, de devoir faire ses preuves tout le temps, de devoir jouer deux fois mieux que les gars pour être prise au sérieux, au même titre. Quand je grandissais, j'étais confrontée à ça. Mes parents qui me disaient, mais le milieu de la musique, c'est pas une place pour une femme. Il y a cette espèce de volonté de montrer qu'on a quand même le droit d'être là et qu'on a notre place ici.
Ouvrez grandes vos oreilles, on continue de découvrir les artistes musiciennes du coin tout en discutant avec elles des obstacles qu'elles ont dû affronter, notamment en matière d'inégalité de traitement liée à leur genre. D'après un travail de recherche signé Astrid Jurquet, intitulé « This is a man's world, la place des musiciennes dans les musiques actuelles », on constate un vrai décalage entre proportion d'hommes et de femmes dans l'apprentissage d'une part et dans le milieu pro d'autre part. En effet, alors que les femmes sont plus nombreuses que les hommes à suivre une formation musicale, toutes structures confondues, que les femmes sont plus nombreuses que les hommes à avoir une expérience de pratique musicale en amateur, seulement 17% des professionnels en musiques actuelles sont des femmes. Cette enquête s'intéresse donc à ces femmes parvenues à surmonter les obstacles, à leur entrée en musique en tant que professionnelles, et plus spécifiquement aux 17% performant en musiques actuelles. C'est une des thématiques que nous allons aborder avec notre nouvelle invitée, Sarah Kay. Mais nous discuterons aussi de sororité, de légitimité, de violence quotidienne liée aux gens, puis de musique bien sûr. Sarah Kay est pianiste dans plusieurs formations rennaises. Elle est à la tête de son propre trio depuis quelques mois et sa créativité musicale hors norme l'amène sur des terrains musicaux tous plus passionnants les uns que les autres. C'est le Sarah Kay Trio que nous allons découvrir musicalement aujourd'hui. Mais on a voulu savoir comment était faite la connexion avec les autres projets auxquels elle participe, comme par exemple Madame Panache, Iris ou encore Nyomoy, notre invitée de la semaine dernière.
C'est pas forcément moi qui choisis les projets dans lesquels je m'investis autant que c'est les projets dans lesquels je m'investis qui me choisissent. Avec Fausta dans Iris, c'est elle qui est venue vers moi. Pour Julia aussi dans Madame Panache. Et c'était les soucis dans Nyomoy. Donc en fait, je crois que ça part aussi d'une volonté chez les musiciennes de vouloir s'entourer de musiciennes parce qu'on n'est pas nombreuses. Et donc quand la possibilité s'offre à nous de s'entourer d'autres nanas, bah, on le fait. Parce qu'un projet avec une énergie féminine, c'est pas pareil qu'un projet où on est entouré qu'avec des gars. J'ai des projets aussi où je suis la seule fille et ça me dérange absolument pas. C'est cool aussi. Après là, pour le projet que je suis en train de monter, ça faisait quelques années que je voulais travailler en trio et que j'avais pas eu l'occasion de le faire. Et donc c'est avec Basile Thuoden et Simon Prudhomme et je travaille avec eux dans Iris. Et donc ça fait maintenant 3-4 ans qu'on se connaît. Donc musicalement, c'est devenu quelque chose de super fluide. On a déjà une symbiose qui s'est créée et j'avais envie de poursuivre ce truc-là. Je crois que c'est un truc que tous les artistes ont envie d'avoir leur bébé à eux et aussi d'avoir un truc où je peux avoir le dernier mot sur tous les choix artistiques et créatifs car j'ai des choses à dire et j'ai envie de les dire et j'avais besoin d'un endroit où c'est moi qui prenais les décisions par rapport à ça. Thank you. crois que toutes les musiciennes que je connais ont une espèce de ont un doute sur leur légitimité que les hommes ont peut-être moins, surtout parce que je crois que ça vient du fait que déjà on n'est vraiment pas beaucoup, c'est un monde d'hommes la musique, et donc on a l'impression directement quand on est plongé là-dedans de devoir faire ses preuves tout le temps, de devoir jouer deux fois mieux que les gars pour être prise au sérieux au même titre. Et donc oui, c'est un peu un mal dont on souffre tous, mais les femmes avec lesquelles je travaille, j'ai l'impression que c'est plus fort ce truc-là, ouais. Je sais que on m'a jamais poussée dans mon enfance vers une profession créative, artistique, musicale, professionnelle. Et il y a eu des recherches faites là-dessus par rapport au pourcentage de femmes et d'hommes inscrits dans les cours de musique, dans les conservatoires. Et en dessous du niveau bac, il y a plus de filles que de garçons dans les conservatoires. Et dès que ça devient le cursus professionnalisant à partir de 18 ans, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et je crois que c'est un truc social de penser que la musique, c'est un hobby pour les femmes. Et que ça peut être une profession pour les hommes. C'est très arriéré, mais je crois que c'est quand même resté au moins dans la génération de nos parents, c'est resté un peu dans les mœurs. Heureusement, pas pour tout le monde. Mais moi, je sais que quand je grandissais, j'ai été confrontée à ça. Mes parents qui me disaient, mais le milieu de la musique, c'est pas une place pour une femme. Parce qu'on est en tournée, on est entouré tout le temps d'hommes, qu'on va être fatigué, qu'on pourra jamais avoir une famille, que... Voilà, des choses, des pensées qui, à moi, me semblent super archaïques, mais qu'on m'a quand même dites à un moment donné. Et donc, vu qu'on est peu nombreuses, il y a cette espèce de volonté de montrer qu'on a quand même le droit d'être là et qu'on a notre place ici. Contrairement à un garçon qui a pu grandir en se disant « Ouais, moi, je veux être une star du rock » et qui a été peut-être soutenu dans cette idée-là, et du coup, qui va se lancer dans cette histoire, dans cette carrière, avec une confiance en soi, en sachant qu'il peut y arriver. Nous, on est sans cesse en train de se questionner, je crois. Je me suis tournée vers d'autres études et vers une autre profession parce que je ne me sentais pas légitime de devenir une musicienne professionnelle, ou que je croyais juste que c'était un autre univers duquel je ne faisais pas partie, je ne devais pas faire partie. Et puis au fur et à mesure, au début de ma vingtaine, je commençais à voir dans les concerts, dans les jams sur Rennes, je voyais qu'il y avait des femmes dans ces milieux-là et qu'on pouvait y gagner sa vie. On n'était pas obligé d'être une star internationale et partir en tournée dans les quatre coins du monde, qu'on pouvait commencer sa carrière humblement et gagner sa vie et que je pouvais avoir ma place dans ce truc-là aussi. J'ai grandi en écoutant principalement des musiciens hommes. Et même quand j'ai commencé à m'intéresser plus sérieusement à la musique, j'écoutais principalement des artistes hommes, puisque c'est ceux qui, qui nous sont montrés. C'est ceux qui ont une visibilité. Et il faut aller chercher les femmes dans la musique. Hormis les chanteuses. Parce qu'il y a quand même ce truc où les femmes, elles sont acceptées et mises en avant dans le chant. Après, des instrumentistes femmes, il y en a beaucoup moins. Il faut aller les chercher. Je crois que, avec le recul, je remarque que dans mes études, il y a pu y avoir des profs qui ont eu un comportement qui n'était pas égal qu'il ait un homme ou une femme en face de lui. Après, c'est un peu délicat de parler d'exemples concrets là-dessus, mais. Parce que... Ah, je sais pas. J'ai eu, par exemple, un professeur qui m'a vraiment énormément aidé avec ma confiance en moi quand j'avais 19 ans. Et qui me faisait énormément de compliments sur mon travail. Et qui m'a redonné goût aux études que je faisais. Et après, j'ai pu entendre une amie me dire « Ah oui, j'ai entendu ce prof-là parler de ta jupe et de ton boule. » Et donc, c'est ce genre de choses aussi qui... T'as une confiance qui t'est donnée et qui t'est retirée aussitôt. Et donc parfois tu te demandes, ah oui, mais est-ce que ça c'est pas m'arrivé parce que je suis une fille et que je suis pas si moche, et ou est-ce que c'est parce que j'ai du talent et que je le mérite? Du coup, tu sais plus ce qui était sincère. J'ai eu des promesses d'embauche qui ont été retirées une fois que j'ai fait comprendre qu'il se passerait rien de qu'il n'y aurait pas de relation entre moi et l'autre personne. C'est arrivé plusieurs fois. Pas dans la musique, mais dans l'illustration. Des gens qui m'appellent pour que j'illustre un projet et qui, en fait, j'ai plus de nouvelles une fois que j'ai fait comprendre que c'était pour moi purement professionnel. Donc, oui. Je sais que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'arriver sur un lieu de concert et que de sentir que, et de façon très flagrante, que vu qu'on est deux nanas qui arrivent faire un petit concert en duo, on est beaucoup moins pris au sérieux. Et par exemple, j'ai déjà été avec une amie chanteuse à faire un concert et que un des gars qui travaille là et qui avait... On va pas lui pardonner parce qu'il avait 60 ans, mais c'est quand même les gens plus âgés qui ont des, je crois, globalement des pensées plus sexistes. En tout cas, c'est plus fréquent. Mais qui lui a dit « Non, mais pourquoi t'es habillée comme ça ? On dirait que t'es venue là pour faire le ménage. Enlève-moi ton gilet. » Enfin, les gens, ils sont venus là pour voir une diva. Et là, ça fait pas diva. dans ma façon de faire, déjà le fait que je m'entoure de femmes et que dès que c'est possible, je souhaite jouer avec d'autres musiciennes femmes, alors que le choix est mille fois plus large chez les hommes. Déjà, c'est un parti pris. Et j'ai longuement hésité au sujet de mon nouveau trio. Est-ce que je l'appelle avec un nom ou est-ce que je l'appelle avec mon propre nom? Et ça, c'est un choix qui j'ai mis plusieurs mois à me décider. Toujours cette question de légitimité et d'ego et d'humilité. Est-ce que je peux porter un projet qui s'appelle le Sarah Kay Trio? Et puis après, je me suis juste dit, mais il y a tellement peu de projets qui sont portés par un nom de femme déjà. Donc rien que pour ça, je me trouve presque dans l'exigence envers moi-même de l'appeler comme ça. Il y a besoin qu'il y ait de la sororité. C'est nécessaire et heureusement qu'il y a ça, ouais. Je crois que ça consiste à déjà une amitié, une ouverture aussi envers les autres musiciennes qu'on ne connaît pas, d'aller chercher les musiciennes peut-être plus jeunes et de les intégrer dans des projets, de leur montrer qu'on est ouverte, qu'on a envie qu'elles soient là, et puis ouais, de l'entraide. J'avoue que sur Rennes, au milieu de la musique, on a de la chance d'avoir une communauté extrêmement bienveillante. Mais j'ai eu de la chance, en tout cas à Rennes, de ne pas être confrontée à cette chose-là. Je sais que sur Paris, on m'a déjà parlé de tel ou tel musicien, il faut faire gaffe parce que voilà, c'est pas une très bonne idée, au contraire, de travailler avec telle ou telle personne. J'étais contente d'être avertie, en tout cas. Dans un monde idéal, on n'aurait pas à le faire. Ça revient un peu à la même histoire qu'avec ce prof qui me complimentait alors qu'en fait, il était juste intéressé par ma jupe. Ça nous fait douter une fois de plus sur notre légitimité. Est-ce que les gens s'intéressent à moi parce qu'ils ont envie de jouer avec moi ou est-ce que c'est parce qu'ils ont envie de coucher avec moi? C'est toujours quand même un petit truc qui trotte derrière la tête. Quand quelqu'un que tu connais pas te propose un projet, bah, tu te poses la question.
Je vais sortir un petit peu de la musique. T'as fait une œuvre que je trouve trop bien, un autoportrait qui date d'il y a un an à peu près, intitulé « Un petit sourire, mademoiselle ». Et avec accompagné de ça, tu dis « Je ne peux toujours pas ignorer la colère que ces mots suscitent en moi. Pour tous les types qui ont déjà sorti cette phrase, à défaut de pouvoir vous faire brûler sur le bûcher, je vous invite à vous faire cuire le cul. » On semble un truc dans cette phrase qui sont intéressants, c'est notamment la colère, un sentiment puissamment violent. Le « je ne peux ignorer » qui montre aussi que tu n'as pas, en tout cas pas peut-être autant que d'autres personnes, intériorisé cette violence-là. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et puis sur le « un petit sourire » qui dit à la fois bah, la femme à la disposition de l'homme, qui lui demande voilà, de disposer de son sourire, en plus qui lui demande d'être heureuse via ce sourire, de cette mise à disposition. Ce truc est hyper intéressant. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu l'as produit et développer un peu ce qui s'est passé en toi et ce qui t'a donné envie d'aller au bout de cette œuvre-là?
C'était un jour, on me l'a dit, pour la millième fois, et j'ai juste... J'ai pas craqué, mais il fallait que je fasse quelque chose par rapport à ça. Et le fait d'être sur les réseaux et de pouvoir poster ça aussi, ça veut dire aussi que j'ai eu un retour de bienveillance, de soutien et qui m'a fait énormément de bien. Mais c'est juste que c'est plus par l'usure que cette phrase elle m'a mise tellement en colère. Maintenant, ça fait un an et demi que ça n'arrive plus parce qu'il y a le masque. Mais le seul avantage esthétique du masque. Mais c'est juste que j'interprète ça comme un inconnu qui me dit « Arrête de ressentir ce que tu ressens là tout de suite et sois jolie pour moi quelques secondes. » Parce que là, comme tu es, bah, moi, ça ne me plaît pas. Et c'est violent. C'est super violent qu'on te dise ça. Et surtout que les hommes qui disent ça, ils se rendent pas compte. Ils ont ce que ça veut dire, le contenu de leurs propos. Pour eux, ils se sentent tout à fait légitimes de dire ça. Et c'est ça qui me met encore plus en colère, le fait qu'ils soient inconscients de la violence de cette demande. J'essaie d'en faire quelque chose de positif. C'est tout l'intérêt d'être artiste, je crois, c'est que les choses, quand on se sent impuissant ou en colère, on essaie de mettre ça au profit de son art, mais aussi pour utiliser ça comme échappatoire et comme catharsis. Une fois que c'est fait, et ça fait plus partie de soi et c'est extériorisé. Les choses qui me mettent en colère aujourd'hui ne me mettaient pas forcément en colère à 18 ans. Mais c'était pas forcément parce qu'il n'y avait pas de colère, c'était juste parce que intellectuellement, j'avais pas compris, je m'étais pas posé les questions qui me permettent de rationaliser cette colère. À 18 ans, si un mec, un inconnu me disait « Hey, souris mademoiselle », limite je souriais. Parce que j'avais pas compris tout ce que ça voulait dire derrière. Mais en même temps, on sent instinctivement qu'il y a quelque chose de dérangeant dans cette demande. Je crois que c'est le fait de vieillir un peu, enfin d'accumuler ces expériences, comme je disais pour cette phrase, simplement l'usure. À force de l'entendre, on commence à se poser des questions. Et puis, je suis quand même du genre à ressasser les choses, à retourner les trucs 1000 fois dans ma tête. Et oui, je crois que c'est un peu la perte de la naïveté de quand on a peut-être 18 piges, on ne se pose pas forcément beaucoup de questions là-dessus parce qu'on n'a pas été confronté à énormément de choses. On est relativement protégé quand on habite avec ses parents et qu'on va au lycée. Malheureusement, pas toutes les filles. Et puis, donc oui, je crois que c'est juste l'accumulation d'expériences comme ça qui font qu'on se pose de plus en plus de questions. Et au bout d'un moment, ça suscite la colère. Ouais. La question de la mixité choisie, je la soutiens totalement. Ça crée un safe space, quoi. Pour des personnes qui ne se sentiraient pas forcément à l'aise de s'exprimer dans un lieu, surtout au sein de la musique, un lieu qui est dominé numériquement par des hommes. Et en tout cas, je sais que j'ai des amis, du coup c'est à Nantes que ce collectif existe, et je sais que j'ai des amis nantaises qui hésitent à aller en jam ou qui n'iraient pas y jouer. Mais dans cette bulle, cette safe space féminine, qui vont, et puis qui se rendent surtout compte qu'elles peuvent tenir la baraque musicalement pendant une demi-heure et qu'il peut en sortir de belles choses. Et ça, c'est quelque chose qu'elles n'auraient jamais découvert si ce concept n'existait pas. Par contre, avec Raymond, la question elle s'est posée. En tout cas, moi, je me suis posé la question de comment je me sentais par rapport au fait, je ne sais pas si tu étais au courant, mais quand on a joué pour le collectif, c'était les deux fois, c'était des projets où il y avait des hommes dedans. Et donc, l'idée, c'était de jouer sans eux. Et elles ont posé ça comme obligation. Et donc, on a dû se poser la question aussi, est-ce qu'on est d'accord avec ça? Est-ce que ça va avec nos valeurs aussi? Parce que c'est répondre à une exclusion par une autre exclusion. Après, en ayant retourné la question pas mal de fois dans tous les sens, on s'est dit, en fait... tant que la parité, on ne l'a pas atteinte, il faut des mesures extrêmes, quoi.
Du coup, si t'avais un conseil à donner à la jeune femme que t'étais, genre quand t'avais 15 ans, un truc comme ça, ouais, 13 ans du coup.
Arrête de dépenser toute ton énergie en te souciant de ce que les gens pensent et fais ce que t'as envie de faire.
Un grand merci à Sarah Kay, pianiste au talent complètement scotchant. On vous souhaite de la croiser sur la scène rennaise, avec Madame Panache, avec Iris, avec Niumoy ou avec son trio. La semaine prochaine, changement de style avec la musicienne pop Lisa Camille, qui développe un univers sensible et poétique au travers notamment d'un EP à l'efficacité redoutable. À la semaine prochaine.